également sa thèse sur la technologie de blockchain avec Bruno Chimo.
Bonjour, merci tout d'abord à Martha et Gérald d'avoir organisé cette journée et d'avoir eu la gentillesse de nous y convier. J'ai dit Martha et Gérald. Donc notre présentation s'intitule « Entre informatique et sémiotique, les conditions techno-méthodologiques d'une analyse de controverse sur Twitter, le cas de la théorie du genre ». Alors, on aimerait vous présenter un cas de collaboration entre un chercheur en SIC et un informaticien, dans lequel la singularité des questions de recherche disqualifiait le fait de pouvoir recourir à des dispositifs d'analyse de tweets existants. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, il y a beaucoup d'initiatives dans le monde de la recherche, de développement, qui ont donné lieu à différentes plateformes de captation de tweets et d'analyse, lesquelles initiatives sont couplées avec des logiciels d'analyse de texte. Mais dans le cadre disciplinaire qui est celui de Virginie, la sémiotique, les présupposés méthodologiques de ces différentes plateformes et outils ne semblait pas convenir a priori pour amorcer la recherche. Donc on s'est dit qu'on allait faire un développement spécifique pour ces questions. Donc on vient vous présenter un cas de collaboration depuis le début sur la manière dont on s'est entendu. Tu viens de me couper le... Excusez-nous. Alors. Il y a trois objectifs à cette présentation. Le premier, c'est de se mettre d'accord, éventuellement collectivement, sur une caractérisation du dispositif de communication Twitter dans le cadre des SIC. Donc on va revenir dans une première partie sur ce qui constitue la singularité de l'écriture numérique et de l'activité de lecture sur la plateforme Twitter. On a pour objectif également de communiquer aux chercheuses et chercheurs qui seraient présents les bases techniques minimales à comprendre et connaître pour pouvoir envisager la constitution d'un corpus et son analyse à partir de Twitter. Et enfin, on espère que notre cas singulier de collaboration porte en lui quand même les germes d'une certaine généralité et qu'il puisse être reproduit dans d'autres contextes, avec d'autres objets de recherche et d'autres compétences.
Alors, je vais commencer la présentation en rappelant très brièvement la question de recherche qui était la mienne au départ et à partir de laquelle on a élaboré donc, cette méthode avec Thomas. Mon objet de recherche depuis un certain nombre d'années concerne la production médiatique du genre au travers d'un certain nombre de controverses et plus récemment la controverse relative à la théorie du genre. En particulier sur Twitter, j'y reviendrai, j'expliquerai pourquoi Twitter constitue un espace intéressant à considérer dans le cadre de cette controverse. Quelques mots de contexte. La controverse autour de la théorie du genre, on peut la situer à partir de 2011 en France, quand des institutions catholiques et un certain nombre de groupes, disons, conservateurs, traditionalistes, émettent l'idée qu'il y aurait une idéologie à l'œuvre derrière certaines actions des différents gouvernements sous la présidence Hollande. Bon, ça commence en 2011, mais ça va être surtout à partir de 2012-2013, avec l'idée voilà, qu'il y a une idéologie à l'œuvre derrière un certain nombre d'actions politiques. Alors l'introduction de la distinction sexe-genre dans les manuels scolaires par Luc Chatel en 2011, l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de personnes du même sexe en 2012, les ABC de l'égalité en 2013-2014, etc. Ce qui m'intéresse dans cette controverse par rapport à d'autres que j'ai pu étudier par le passé, comme notamment la parité, les débats autour de la parité en politique, c'était que le débat sur la théorie du genre, son point de focalisation, c'est les luttes définitionnelles autour du genre. C'est-à-dire que le genre n'est pas une question annexe. Quand on parle de parité en politique, on dit voilà, il y a la moitié de l'hémicycle qui doit être composé de femmes, par exemple. Et ça va amener des questions philosophiques sur c'est quoi un homme, c'est quoi une femme, etc. Questions auxquelles les études de genre essayent de répondre. Là, avec le débat autour de la théorie du genre, c'est le genre, la question même, le point de focalisation du débat. Par ailleurs, les personnes qui vont essayer de critiquer ces actions du gouvernement, estiment qu'ils ne sont pas suffisamment bien représentés dans les grands médias. Et donc, ils vont investir des espaces en ligne, et notamment Twitter, pour porter leur contestation. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai été intéressée par Twitter comme lieu d'expression de ce type de critique. Alors, cette question de recherche, je l'aborde à partir d'une démarche qu'on pourrait qualifier de démarche sémiotique. Alors, en quelques sémiotique, sémiologie, bon, je ne reviens pas sur les distinctions. Ce qu'on peut dire en quelques mots, c'est que la sémiotique est une approche qui va considérer les effets de sens des textes qui circulent dans un contexte de communication particulier. Ou pour le dire autrement, ce qui m'intéresse, c'est de regarder comment le sens se dégage dans une interaction, dans une interaction, dans un contexte spécifique, et non pas tant de me dire que le sens a été codé a priori et qu'après on retrouve toujours le même sens autour d'une définition, d'un mot, d'une terminologie. Par exemple, théorie du genre, au départ, je ne pars pas du principe que c'est uniquement une expression forgée par les conservateurs ou les traditionalistes. Au début, il y a tout un tas de personnes qui emploient cette expression théorie du genre. Et puis, au fur et à mesure que la controverse avance, le sens va se figer et ça va devenir équivalent de critique des études de genre. Mais au début, les acceptions étaient beaucoup plus variées. Donc, c'est ça aussi qui m'intéresse, comment une formule circule dans l'espace public, comment elle va condenser des significations à des moments, pourquoi, dans des contextes spécifiques. La sémiotique s'intéresse également à la manière dont on articule des langages iconiques, linguistiques, sonores, etc., et comment les effets de sens sont produits à partir de cette articulation. Pour le dire autrement, je ne m'intéresse pas uniquement au texte, mais je m'intéresse à la mise en page, mise en scène éditoriale, au rapport texte-image, etc. Je m'intéresse également à ce qu'on peut appeler les phénomènes discursifs, à savoir l'usage de l'ironie, de l'implicite, de la polyphonie, de l'interdiscursivité, etc. Et c'est la raison pour laquelle les outils qui existaient déjà ne me satisfaisaient pas totalement. Par exemple, j'ai beaucoup essayé de m'approprier des logiciels comme Iramutech, mais qui proposent une analyse lexicographique qui ne répond pas à la question que je me posais. L'analyse de réseau à partir des acteurs aussi, qui n'est pas forcément une approche à partir des textes lui-même, comme la sémiotique s'y intéresse, ou les logiciels comme Textopol, développés à l'UPEC, qui sont de l'analyse textographique, mais qui ont une approche très spécifique des images qui ne correspondait pas à ce que je voulais étudier. Je voudrais dire un mot également pour expliquer le contexte de la recherche. Travaillant à l'Université de Technologie de Compiègne, je me suis dit que je vais aller voir mes collègues en informatique pour savoir s'ils ne pourraient pas, avec moi, élaborer une méthode, me proposer des outils informatiques qui répondraient plus à mes questions de recherche. Et en fait, en allant voir mes collègues de laboratoire d'informatique, je me rendais compte que j'avais beaucoup de bienveillance et d'ouverture de la part de mes collègues, mais qu'il y avait des questions de recherche qui étaient pour leur part très différentes, puisqu'ils se situaient en sciences de l'informatique, et que ce n'étaient pas nécessairement les questions qui les intéressaient. À l'inverse, eux, ce qu'ils auraient aimé faire dans une recherche avec moi, ce serait de travailler en traitement automatique du langage, donc c'était repérer des marques de sexisme dans le texte. Enfin, pour le dire autrement, chacun avait un peu ses questions de recherche, on avait un petit peu du mal à se retrouver. Par ailleurs, en informatique, il y a beaucoup de collègues qui partent chez les GAFA, et donc les gens qui étaient susceptibles de travailler avec moi ont été recrutés par Facebook, enfin... Il y a aussi un contexte propre à l'informatique à l'université qui est un petit peu singulier. De même, on a un ingénieur de recherche pour 50 chercheurs, donc autant dire qu'il est très occupé, donc on n'a pas toujours la possibilité d'interagir avec lui. Et Thomas étant mon conjoint, je revenais tous les soirs à la maison en lui disant « c'est terrible, j'ai parlé avec un tel, il me propose tel outil, ça ne va pas du tout, j'ai parlé avec un tel, il a été recruté par Facebook, je ne sais plus quoi faire pour travailler sur ce sujet ». Et il s'avère que Thomas, dans le cadre de sa thèse, avait abordé certaines des questions qui ont nourri la réflexion que nous avons ensuite menée conjointement. Et donc, nous avons commencé à travailler à l'élaboration d'une méthode, au développement d'outils informatiques, en dialogue et en avançant ensemble.
Alors, on va revenir brièvement sur ce que c'est que Twitter comme dispositif d'écriture numérique avec un cadrage SIC. Alors, cette partie sera absolument pas exhaustive. Depuis une dizaine d'années, il y a énormément de papiers de recherche qui cherchent à qualifier la singularité de ce dispositif d'écriture et de lecture. On va simplement insister sur les aspects qui sont particulièrement importants pour la recherche de Virginie. Alors, premièrement, les hashtags, mots dièse. On peut considérer que ces petits objets documentaires ont une fonction triple. La première fonction est purement indexicale. Il s'agit de qualifier le contenu au moment où on l'écrit. Donc le hashtag fait office de descripteur censé qualifier ce à propos de quoi porte le tweet. Incidemment, le hashtag revêt également une fonction de marqueur d'appartenance à une communauté. Par exemple, le fait d'écrire dièse LGBTQI, donc lesbienne, gay, bisexuel, transidentité, queer et intersexe, montre qu'on est sympathisant qu'on appartient à cette communauté. LMPT, donc pour la manif pour tous, montre une chose similaire, quoique située de manière diamétralement opposée sur l'échiquier des valeurs. Et enfin, une troisième fonction importante du hashtag est son marqueur de position au sein d'une controverse. Alors on a des hashtags comme par exemple dièse no GPA, qui est l'équivalent d'un slogan qu'on pourrait utiliser dans la rue dans le cadre d'une manifestation, qui dénote une position. Il est autosuffisant. Des choses plus subtiles, ONLR, on ne lâche rien, qui est un marqueur détourné de ralliement des diverses associations traditionnalistes et catholiques. Et enfin, l'expression plus compliquée de théorie du genre, qui, pour ceux qui donc n'ont pas suivi les évolutions de la signification de cette expression, sont en fait, en 2017, est en fait majoritairement utilisée par ceux qui renvoient en vérité à une idéologie du genre, donc par les groupes traditionnalistes. Ceci n'apparaît pas immédiatement quand on ne connaît pas encore une fois l'histoire, les significations de ce terme. Le hashtag est d'autant plus important que le contenu du tweet est bref. Je rappelle qu'un tweet est limité à 140 caractères, donc tout ça donne une polarité très très importante sur les hashtags. Et on observe aussi des phénomènes de combinaison de hashtags. Par exemple, on a trouvé un tweet qui apposait uniquement dièse LGBT, dièse pédophile. Je vous laisse imaginer les significations qu'une telle conjonction peut avoir. Donc là, en fait, on a un message qui est extrêmement fort en termes de vouloir dire, mais qui ne passe pas par la forme du langage naturel argumenté, sujet, verbe, complément. Donc c'est quasiment une espèce de langage à part. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est que le hashtag, en tant que petit objet documentaire qui sert à indexer des fragments de contenu, a valeur dans la totalité du système d'information Twitter, ce qui fait que posséder un hashtag revient à posséder une partie du territoire global de l'ensemble des tweets sur Twitter, et le hashtag est évidemment le lieu d'une lutte pour conquérir ce territoire. Un des effets amusants et intéressants pour notre recherche de cette globalité, c'est que l'homonymie du coup est présente, et évidemment le hashtag #dièsegenre est également employé par les féministes, antiféministes et les mélomanes, puisque énormément de messages de notre corpus possèdent dièse musique, dièse genre, dièse hip-hop ou tout ce que vous voulez. Ensuite, deux trois éléments sur l'activité de lecture promue par Twitter. Dans l'interface du site web Twitter, les fonctions de promotion sociale d'un contenu que sont le retweet et le fait d'aimer, puisque c'est ainsi que ça se nomme maintenant, le fait que ces fonctions soient promues nous amène vers une activité de lecture qui est à la fois lecture et positionnement. On est toujours encouragé à remarquer quelque chose, le retweeter, le marquer comme signifiant. Donc c'est un système qui prévoit d'emblée, dans ses fonctions éditoriales et de lecture, le fait de se positionner, donc de définir son identité à mesure que nous lisons. Enfin, un phénomène assez intéressant, la brièveté du tweet induit la nécessité d'avoir un contenu à fort impact. Pour cela, rien de mieux qu'une citation ou qu'un contenu tierce. Donc il y a énormément de tweets qui servent uniquement à rapporter le contenu issu d'une URL. Or, Encore une fois, la contrainte des 140 caractères a aussi un effet pervers, c'est que des sources très très hétérogènes, médias traditionnels, billets d'humeur sur un blog extrémiste, sont mises au même niveau, puisque les 140 caractères ne permettent pas d'identifier la source. Il n'y a pas cette culture de la citation, si vous voulez, sur Twitter. Et donc, en fait, ce que ça produit en termes d'activité de lecture, c'est qu'il y a un phénomène de lissage énonciatif où on voit des tas de choses, mais il n'y a pas d'instrument pour les discriminer et pour les hiérarchiser.
Alors un autre élément qui nous intéressait dans les manières d'écrire sur Twitter, c'est la façon dont l'image va pouvoir recueillir une part importante du sens dans le cadre de cette controverse. On l'a dit, la brièveté des tweets, l'économie de caractère peut conduire les internautes à déléguer une partie du sens ou une partie de l'argumentation à un média joint ou à une image qui aurait été ajoutée au tweet. Alors, un exemple paradigmatique qui, moi, m'amusait dans le corpus, c'était partant d'un tableur avec juste le texte des tweets, la théorie du genre, c'est ça, mais évidemment, si on n'a pas regardé quelle est l'image jointe, on ne peut pas savoir de quoi il retourne. Donc on va consulter l'image et on voit donc un homme avec une brique de lait scotchée sur la poitrine qui essaye d'allaiter son enfant, et donc on comprend à travers l'image qu'il est bien question là d'interroger la manière par laquelle les études de genre vont ou pas challenger, mettre en question les différences naturelles entre les hommes et les femmes. Alors on pourrait encore considérer que c'est humoristique, que le tweet est humoristique, donc on a également été amené à consulter les autres publications de l'auteur de ce tweet, et il s'avère qu'effectivement c'est quelqu'un qui est plutôt opposé aux études de genre, et que donc là ce tweet vient en quelque sorte apporter l'argument que la différence des sexes est bien biologique, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, et donc considérer que c'est plutôt mal d'essayer de remplacer l'allaitement maternel de cette manière. Et là,
Est-ce que l'image est visible partout dans la salle ? Voilà, donc c'est un homme qui porte une poche de lait avec un morceau de sparadrap et qui allaite donc un bébé comme ceci.
Voilà, et donc en gros, on ne peut jamais, enfin ce que dit cette image, c'est on ne peut jamais remplacer complètement le sein maternel, donc la nature la différenciée biologique entre hommes et femmes. Et en consultant le tweet, je m'aperçois que la première réponse au tweet accentue ou fait une lecture du tweet un peu différente que ce que l'auteur a voulu dire, une lecture humoristique. Ah ouais, c'est trop pratique pour les papas gays avec des petits smileys morts de rire. Et donc en fait, en consultant les publications de cette personne, je me rends compte que l'interprétation qu'elle fait d'un tweet plutôt dépréciatif et disqualificatif est plutôt reçue sur le mode humoristique. Et donc là, on se dit, finalement, est-ce que dans la mesure où on peut faire l'hypothèse, même s'il faudrait la conforter, que le retweet équivaut bien souvent à valider les arguments, les propos qui sont retweetés, quoi que ça puisse se discuter, est-ce que finalement c'est pas dans les réponses et dans les discussions, les conversations sous les tweets qu'on va observer des formes de conversation, d'opposition, et donc la question s'est posée de savoir comment on pouvait faire avec ces conversations. Et donc, une des questions que j'ai posées à Thomas était de savoir, est-ce qu'on pourrait recueillir ces conversations pour identifier des formes de conflits possibles autour de propositions très marquées, telles que celles que j'avais pu observer dans l'exploration préalable du corpus. Alors, là, par exemple, je vous propose un exemple qui est en fait le tweet de Marc Fiorentino, qui est le tweet le plus retweeté du corpus. Donc, je vous lis. Les Français demandent l'emploi et la sécurité. On leur donne le mariage pour tous et la théorie du genre. De point, incompétence des politiques. Donc, ce tweet est retweeté 784 fois. Et c'est celui qui ressort comme étant le plus retweeté du corpus. Il y a à peu près autant de réponses à ce tweet, et la lecture des réponses nous montre une réception beaucoup plus contrastée, où en fait Marc Fiorentino apparaît comme étant, je cite, un imbécile, et il y a une remise en question de ses propos. Donc je vous lis l'échange qui se fait entre deux internautes. Donc si, at Marc Fiorentino, donc adresse, c'est clair et sans parler du lobby LGBT qui crée de la misère et le chômage, point d'exclamation. François, à l'heure, lui répond, peux-tu m'expliquer qui est ce lobby LGBT dont tu parles? Si, lui répond, peux-tu m'expliquer le second degré qui t'a échappé? François Allard répond, désolé, au milieu de tous ces commentaires, je n'avais pas perçu le deuxième degré. Sorry. Et le,
smiley. Si,
smiley. Réponse de si, pas de souci, c'était juste une réponse aussi absurde que le tweet initial. Et l'autre de répondre, on est bien d'accord. Pour le dire autrement, il y a tellement d'implicite et d'ironie sur Twitter que parfois il y a même incompréhension entre deux internautes qui vont commencer par s'engueuler pour finalement se rendre compte qu'ils sont d'accord. Et si on ne suit pas tout ce chaînage-là, en fait, bah, on peut aussi se laisser avoir et interpréter un tweet complètement à l'inverse de ce que voulait dire l'internaute.
Alors voilà pour les quelques éléments et phénomènes qu'on regarde particulièrement sur Twitter. Alors maintenant, on va rentrer dans des considérations un petit peu plus techniques et on va essayer de vous expliquer les conditions de possibilité d'une analyse de Twitter, de la collecte, de la constitution du corpus, enfin plutôt de la collecte des données à la constitution du corpus jusqu'à la construction d'outils d'analyse qui répondent à des problématiques analytiques particulières. Alors, merci. Alors, je sais que le schéma est illisible, donc je vais le commenter. Premièrement, la première chose qu'il faut savoir sur Twitter, c'est que vous avez trois manières d'obtenir des tweets. Alors, je ne sais pas du tout dans la salle si certaines et certains d'entre vous se sont déjà livrés à cet exercice. Donc voilà, je pars du principe qu'une synthèse peut intéresser certaines et certains. Alors, le premier moyen le plus efficace qui donne accès à la totalité des bases de données Twitter est en fait réservé aux partenaires industriels de Twitter. C'est quelque chose qui est coûteux, hein, qui est sujet à un accord industriel entre tiers et qui n'est pas a priori à la portée d'un laboratoire de recherche. Ensuite, il y a la possibilité de se démerder en utilisant les API publiques de Twitter, lesquelles sont de deux natures. Il y a d'abord l'API dite REST, R-E-S-T, qui désigne en fait une architecture de système d'information. Je pense que c'est hors du cadre de ce séminaire de définir exactement ce que c'est. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une API de type REST, on pose des questions. Alors une API, en deux mots, c'est une espèce de contrat de communication entre un service qui va exposer des données et un programme qui va les consommer. C'est un protocole qui permet de poser des questions compréhensibles par le service et de décrypter les réponses pour que ce soit compréhensible pour la personne qui pose les questions, enfin la machine qui pose les questions plutôt. Alors, donc l'API REST va vous permettre par exemple de savoir ce qu'un utilisateur donné a publié. Avec une limite de 3200 tweets dans le passé, ce qui fait qu'un compte qui a publié plus de 3200 tweets, au-delà du 3200e, on perd, on ne peut pas revenir dans le passé. On peut aussi poser des questions par le contenu. Par exemple, je voudrais la liste de tous les tweets qui contiennent le mot théorie du genre. Le problème, c'est qu'il y a une contrainte temporelle, attention, de 2 semaines. Donc c'est absolument inapplicable pour une recherche, pour une constitution de corpus systématique et sans garantie d'exhaustivité. Bon, autrement dit, ça ne satisfait pas les critères d'une constitution de corpus systématique. C'est plutôt pour faire de l'analyse de tendance. Donc en fait, quand on voit la structure des API Twitter, on voit que leur intérêt est quand même davantage de fournir des outils de mesure de l'humeur ou de ce dont il est question sur le web, plutôt que d'analyse systématique des données qui y sont produites. Et enfin, donc, la troisième manière de constituer un corpus, qui est celle qu'on a choisie, c'est l'API dite stream, ce qui signifie flux en anglais. C'est une API dite temps réel. Le principe est que vous écoutez en temps réel ce qui se passe sur Twitter en définissant une liste de mots-clés qui vont vous intéresser. À partir de là, tous les tweets produits sur la plateforme, quels qu'ils soient, qui contiennent l'un des mots-clés que vous avez définis comme critère d'écoute, vous allez pouvoir les capter et les récupérer chez vous. Ça, a priori, l'exhaustivité est garantie, ce qui fait que on pense qu'on peut garantir que dans notre base de données, il y a bien 100% des tweets qui possèdent les mots-clés qu'on a entrés. On va revenir un petit peu après sur les conditions méthodologiques de constitution de cette liste, mais pour l'instant, retenez simplement ceci. Donc, alors, je précise qu'il y a des travaux de recherche qui s'intéressent à des acteurs. Nous, on s'intéresse à une question, à un thème, à une expression, à la circulation d'une expression. Par exemple, comment s'appelle le chercheur qui bosse sur mes
C'est
comptes?
Julien Longhi.
Julien Longhi a publié des papiers où il s'intéresse à ce que disent les députés, je crois, sur Twitter. Donc son point d'entrée, c'était
Les
d'interroger
acteurs
les
politiques.
comptes Twitter des députés en question.
Les acteurs politiques.
Et pas que des députés, en effet, d'acteurs politiques. À partir de là, voir aussi les utilisateurs qui avaient défini ces comptes parmi leur liste de favoris. Et comme ça, constituer un réseau de personnes hein, qui s'y dans le champ politique. Nous, on n'était pas capable, a priori, d'identifier des acteurs. On voulait savoir, on voulait arriver aux acteurs quelque part, partir d'une expression et comprendre qui l'employait, pourquoi et comment. Donc ça, je pense que c'est la première question à se poser quand on fait quand on fait un travail sur Twitter. Évidemment, les deux méthodes sont complémentaires. C'est-à-dire que quand on se rend compte qu'un acteur emploie une expression, c'est bien de compléter par du stream, et réciproquement, quand on part d'une expression, c'est bien de compléter en allant voir ce que font les acteurs qu'on a identifiés. Les deux sont complémentaires. Mais c'est néanmoins, il faut bien amorcer le travail quelque part, et je pense que c'est la question première à se poser quand on souhaite constituer un corpus. Donc, nous avons. Alors, le fait d'être à l'écoute en temps réel de Twitter a une conséquence technique forte, c'est qu'il faut un serveur, au sens d'un ordinateur, sur lequel tourne un programme. Perpétuellement, dont on peut assurer une qualité de service pour que la captation soit systématique. Alors, bon, avec nos petits moyens, notre manière de régler ça, c'est que bon, ben, on a un serveur qu'on a payé, on a développé une petite application et on sait quand elle s'arrête parce que des fois, les logiciels plantent, vous le savez. Donc, on est capable de dire quand on écrit une publication que notre collecte va du temps au temps, période d'interruption d'une demi-heure, puis du temps au temps. Donc, on est au moins sûr d'être exhaustif sur la période temporelle qu'on a déclarée. Ce qui est pour moi un critère important pour dire qu'on a un corpus qui renvoie au réel. Voilà. Donc, nous avons une base de données qui reçoit en temps réel les tweets qui contiennent les mots-clés qu'on a définis. Cette base est donc sur un serveur. Ensuite, après, la méthodologie qu'on a choisie, c'est à un moment, on veut analyser le contenu de cette base. On duplique cette base sur un ordinateur de travail, un poste local. Et donc, ça fait une espèce de snapshot à un temps T. Ça fige la base. Et on peut travailler sur cette base pendant que la captation continue. Donc, on ne travaille pas directement sur la base de captation. C'est un choix méthodologique. Cette base, donc on a commencé la captation le 5 octobre 2014 et on l'a arrêtée il y a 2 mois, donc ça fait un peu moins de 3 ans. On a plus de 2 millions de tweets, en majorité dû à l'homonymie autour du mot genre, hein, genre et musique. Donc évidemment, on ne peut absolument pas considérer que la base de captation, c'est un terme que je propose, mais évidemment la terminologie n'est pas figée, on ne peut pas considérer que cette base est égale au corpus. C'est pas possible. Donc, on s'est dit, bon, très bien, qu'est-ce qu'on va regarder là-dedans? Donc, on a mis sur pied un processus de filtrage qui consiste à faire un sous-ensemble de cette base pour répondre à une question particulière. Notre question était de nous intéresser à l'expression théorique du genre. Donc, on a défini les différentes formes matérielles en termes de lettres, de chaînes de caractères que l'expression théorique du genre pouvait prendre. Je vais revenir en détail sur ce point après, pour générer des sous-bases qui filtrent le contenu de la base initiale. Actuellement, sur plus de 2 millions de tweets dans la base de captation, la base filtrée contient 107 000 tweets, en ne retenant que ceux qui évoquent plus ou moins directement l'expression théorie du genre sur laquelle nous travaillons. Ça, c'est une partie de notre corpus. On pourrait dire qu'il est brut, même si le terme est sujet à discussion. Or, ça, c'est ce que renvoie l'API Twitter. L'API Twitter, elle est purement textuelle. Elle renvoie une version structurée du tweet qui délimite bien les champs. Ceci est un hashtag, ceci est le texte, ceci est l'utilisateur. Très bien. Mais il y a des informations qui sont masquées là-dedans, qui sont importantes pour nous. Ces informations sont de trois types. Premièrement, les URL. Peut-être savez-vous qu'il existe sur Internet des services dits de raccourcissement d'URL. On voit fréquemment des URL à rallonge de plus de 200-300 caractères. Or, ça, c'est pas possible de les convoquer dans un tweet de 140 caractères. Donc, il y a des services de raccourcissement qui ont vu le jour. Jusqu'à ce que Twitter crée son propre service de raccourcissement. Et maintenant, quand vous mettez une URL dans un tweet, elle est automatiquement raccourcie par Twitter. Mais il existe encore sur le web des URL raccourcis par des services tiers. Donc, par exemple, certains médias, journaux en ligne, ont leur propre service de raccourcissement. Si on veut savoir de quel nom de domaine il est question dans notre corpus, on ne peut pas s'arrêter là. Parce que il faut qu'on sache exactement ce qui est derrière. Donc il faut qu'on soit en mesure de déplier ces URL. Donc on a développé un premier composant logiciel qui prend systématiquement chaque URL raccourci. On a une liste des services existants. Et puis on va, avec ce petit programme, savoir quelle est la véritable URL citée par l'auteur du tweet.
Je me permets de faire une incise. Ça, c'est particulièrement précieux comme outil parce que ça nous a permis notamment d'identifier la grande variété des sources qui étaient énoncées par un même utilisateur. Justement, avec ce lissage où on masque qui est à l'origine de l'information, on a pu se rendre compte qu'un même internaute pouvait citer un grand nombre de domaines et on a pu aussi faire un certain nombre de statistiques pour savoir quels étaient les nombres de domaines les plus cités. Donc ça, c'était particulièrement intéressant.
Donc au lissage énonciatif, qui est une mauvaise pratique de la citation, du fait de la brièveté, s'ajoute un lissage technique qui va en plus obfusquer les sources réelles dont il est question. Deuxième chose manquante, les images. Dans l'API renvoie une URL qui pointe vers un fichier JPEG ou PNG. Très bien. Mais ce n'est pas le fichier. Or, il faut pouvoir consulter ces images, car comme on l'a vu, on est face à des pratiques d'écriture où parfois il y a une délégation totale du sens à l'image. Donc on ne peut pas se contenter d'un tweet qui aurait un texte vide et une image sans regarder l'image. Donc l'image est importante. Donc nous, on a développé un petit système pour aller télécharger les images. Et là, on s'est rendu compte qu'une même image pouvait avoir été postée par différents utilisateurs à des moments différents, ce qui va se traduire par différentes URL dans Twitter, alors qu'il s'agit du même contenu. Donc c'est pas suffisant si on veut à nouveau savoir exactement à propos de quoi porte le corpus. Donc on a développé un système qui permet d'analyser les images et de dire que malgré l'hétérogénéité et la différence des URL, de vérifier si le contenu n'est pas le même. Donc on est sûr de vraiment pouvoir dédoublonner les images pour de vrai.
À une limite près, c'est que si l'image est un tout petit peu plus zoomée ou un tout petit peu décadrée, elle apparaît comme deux images différentes.
Voilà, c'est un système qui va faire une comparaison pixel par pixel, donc qui est assez bête, alors qu'évidemment, il faudrait perfectionner ce truc-là pour pouvoir avoir des relations d'inclusion. Genre, ceci est un détail d'une autre image. On n'en est pas à ce niveau de finesse, mais ça serait certainement une collaboration intéressante avec des informaticiens en traitement du signal qui sauraient faire ça correctement. Donc c'est une limite de notre approche, mais ce qui est aussi une limite de nos compétences. Enfin, troisième chose manquante, les conversations. Twitter ne dit pas dans son API qu'un tweet est un élément d'une conversation. Il dit qu'un tweet est une réponse à un autre tweet. Alors une fois qu'on a ce tweet, on peut remonter, ta. C'est potentiellement très coûteux en termes de requêtes, parce que chaque fois qu'on pose une question à l'API, ça coûte du temps et du temps de calcul et du temps de transfert réseau. Donc là, on est face au fait que Twitter, dans sa politique éditoriale d'API, considère que la conversation n'est pas un élément important. Du coup, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle du scrapping. On va analyser la source HTML sur laquelle apparaît le tweet et on va récupérer l'identifiant du tweet qu'on appelle racine de la conversation pour pouvoir dire chaque tweet quel est le tweet racine qui a initié la façon dans laquelle il s'insère. Voilà. Et donc ça, c'est nos trois éléments qui permettent de compléter notre corpus initial. Tout ça est consolidé dans une petite base de données qui sert de fond à une petite application d'analyse et de restitution sur laquelle Virginie reviendra après. Voilà, donc je vais... donc ça, je l'ai dit... Alors là, on a mis notre liste de mots, les mots qu'on écoute. Je te laisse la commenter, peut-être Virginie.
Oui, alors ça, c'était quand on a choisi de se connecter à l'API Stream, on a défini une liste de mots-clés que voici, et c'est ce qui a donné lieu à ce qu'on a appelé le protocorpus de 2 millions de tweets, qui était beaucoup trop large, notamment du fait de la polysémie du terme genre, Thomas l'a expliqué. Du coup, on s'est dit qu'on allait définir des filtres plus précis autour de l'expression de théorie du genre. Thomas a dit qu'on avait commencé à récolter des tweets à partir du 5 octobre 2014. La controverse a donc... Il y a une part de la controverse qui n'est pas contenue dans son corpus. Mais pour autant, à partir de 2014, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce figement de la signification du terme, de l'expression de théorie du genre. C'est-à-dire qu'en 2014, quand notre collecte commence, ça signifie clairement idéologie du genre. C'est-à-dire que théorie du genre se conçoit comme une formule condensée, cristallisée, critique des études de genre. Donc on a consulté, on a fait une première exploration du corpus pour voir comment elle pouvait se décliner, et on a observé des formes assez amusantes et une grande inventivité autour de cette expression que l'on a essayé de rationaliser. Alors par exemple, théorie du genre peut s'écrire avec ou sans des majuscules, avec ou sans des espaces, avec ou sans accents. Ça peut s'écrire théorie du hashtag genre, théorie du hashtag gender, théorie du troisième genre, etc. etc. Et donc, avec Thomas, nous avons formalisé des expressions rationnelles qui témoignent de ces déclinaisons possibles.
L'expression rationnelle, c'est un petit objet informatique qui est une espèce de manière de représenter toutes les déclinaisons possibles d'un motif de caractère.
Donc on le voit, TH entre crochets, parce qu'il peut y avoir ou pas des accents, ori du ou des genres, il y a un hashtag parce que potentiellement ça peut être théorie du hashtag genre, G pour genre, D pour gender, trois petits points parce qu'il peut y avoir une troncature, c'est-à-dire que lors d'un retweet, théorie du genre peut être coupée à théorie du trois petits points, trois parce qu'on avait observé théorie du troisième genre. Donc voilà, il y a un premier travail, il y a un aller-retour si vous voulez entre le corpus et ensuite les questions, la manière dont on va essayer de le raffiner.
Ça tu l'as dit.
Et donc...
Et bien donc on va vous présenter maintenant la partie graphique et les quelques outils d'analyse qu'on a commencé à développer pour attaquer ce corpus, pour essayer d'y trouver des points d'entrée, sachant que là on est vraiment dans un work in progress, on est plutôt au début.
Donc on l'a dit au départ, la démarche elle était itérative, c'est-à-dire que au fur et à mesure des développements, j'allais sur le corpus, je le consultais, je l'explorais et je revenais avec des nouvelles questions qui étaient à même de susciter de nouveaux développements et de nouveaux outils informatiques. Ma question, c'était face à un corpus de 107 051 tweets, quand on fait une analyse sémiotique, on a l'habitude de lire in extenso les articles, de consulter les images, etc. Comment on fait pour se repérer dans un si grand corpus? Et donc, on s'est dit, d'abord, on va essayer de chercher des points d'entrée dans le corpus, et Thomas a développé un ensemble d'outils statistiques classiques qui permettent d'identifier des événements, des phénomènes qu'on pourrait considérer comme ayant un certain poids dans le corpus. Donc les comptes les plus actifs, les hashtags les plus utilisés par compte, ce qui permet de regarder qui utilise quel hashtag, le nombre des domaines les plus cités par compte, les tweets les plus retweetés par compte, les utilisateurs les plus mentionnés par compte. Et là, c'est comme ça que j'ai identifié le tweet de Marc Fiorentino, parce que c'était le plus retweeté et que j'ai considéré que les conversations étaient particulièrement intéressantes à étudier. Et donc, j'ai dit à Thomas, ce serait vraiment bien si on pouvait récupérer ces conversations. Les utilisateurs les plus mentionnés et par compte, ce qui permet aussi de faire des liens entre qui est plus actif, qui est le plus mentionné, mais qui n'est pas nécessairement à l'origine un compte actif, etc. Donc, c'était des manières d'avoir des portes d'entrée dans le corpus. Par ailleurs, donc ça c'était les outils statistiques classiques, par ailleurs Thomas a développé des outils statistiques plus originaux par rapport à cette question des images que j'essayais de creuser. Alors dans l'interface de navigation qui me permet de regarder un petit peu ce qui se fait au niveau des images, il y a un certain nombre d'informations, on va dire chiffrées, qui là aussi me donnent des portes d'entrée dans le corpus pour voir quelles sont les images qui circulent le plus. Et de manière assez contre-intuitive, finalement, l'image qui circule le plus, c'est une caricature de Plantu qui va plutôt se moquer des groupes conservateurs, etc. Alors que en termes de tweets, si on compte les tweets basiquement, on se rend compte qu'il y a plutôt une surreprésentation des comptes attachés à des valeurs particulièrement conservatrices. Donc il y a des choses comme ça intéressantes à considérer. Là, quand on regarde l'interface, donc il y a le nombre d'images convoquées dans les tweets du corpus, donc 16 868, le nombre de tweets qui convoquent au moins une image, donc 15% des tweets du corpus convoquent au moins une image. Les images convoquées dans les tweets qui sont encore accessibles, il y a un delta entre le nombre d'images convoquées et celles qui sont encore accessibles parce qu'il y a beaucoup de contenus qui sont supprimés sur la controverse. Alors on peut faire des hypothèses, est-ce que c'est de l'autocensure, les gens reviennent sur leurs publications, les suppriment, ou est-ce qu'on va désigner des contenus racistes, homophobes, sexistes, etc. et que du coup les contenus vont être supprimés. Et puis, grâce à ce dédoublonnage, on s'aperçoit qu'il y a peut-être 16 800 et quelques images qui sont convoquées dans les tweets du corpus, mais au final, il n'y a que 1930 images différentes. Et ensuite, ce qu'on a aussi observé, c'est que la moitié des images citées correspondent, la moitié des tweets qui citent des images, c'est environ 100 images. C'est-à-dire que 100 images constituent... 5% des images constituent la moitié des tweets qui citent des images. Donc là, sur le tableau, on voit à la fois les images par classement, celles qui sont les plus citées, donc celles de Plantu 357 fois. On fait un cumul pour savoir quel pourcentage elles représentent dans la base d'images. Et puis, sur la dernière colonne, il est possible de voir l'image et de voir les tweets dans lesquels l'image apparaît. Donc, par exemple, quand on clique sur « voir les tweets de la première image », on retrouve l'image mentionnée et puis le texte de chacun des tweets qui la cite, avec notamment la possibilité, là vous voyez la petite planisphère, d'aller de cliquer dessus. Donc, il y a un lien URL qui permet d'aller consulter en ligne son environnement dans la page, dans le navigateur.
En fait, c'est un fichier Excel intelligent avec des éléments de d'hypermédia, des éléments de navigation, la présence des images, etc.
Donc là, vous voyez tout en haut, il y a l'œil pour quand ça concerne des métriques sur les images, un petit bonhomme qui parle quand il s'agit des conversations. Et le petit dièse qui renvoie aux statistiques sur les hashtags. Donc là, c'est vous avez en haut un tableau qui correspond en fait aux tweets qui sont inscrits dans des conversations, où vous avez à la fois le texte du tweet, l'identifiant du tweet racine, et si on clique sur l'identifiant du tweet racine, on arrive sur son environnement dans un navigateur. Donc, on arrive sur Twitter et comme ça, on voit à quel tweet appartient, enfin, à quelle conversation appartient le tweet de la base avec son historique jusqu'à la racine. Alors, c'est particulièrement important dans le cadre de Twitter où on a vraiment de l'implicite dans les tweets. Alors là, le tweet qu'on a choisi est particulièrement... particulièrement ambigu, enfin pas ambigu au sens où il est sexiste et raciste, mais ambigu dans le sens où on ne comprend pas de quoi il s'agit. Donc c'est vrai qu'égorger son prochain avec le sourire, faut être équilibré, théorie du genre musulman, point d'exclamation. Donc là on ne comprend absolument pas de quoi il est question et qu'est-ce que tout ça vient faire dans le débat autour de la différence ou pas entre les sexes. Et donc en revenant sur le tweet racine, on comprend qu'en fait, ce tweet-là appartient à toute une discussion qui évoque des attentats qui avaient lieu sur des marchés de Noël en 2015 et que, en fait, on s'aperçoit que théorie du genre commence à être utilisée comme équivalent de absurdité du gouvernement. C'est-à-dire, finalement, théorie du genre n'a plus rien à voir avec des questions homme-femme, homosexualité, hétérosexualité, hétéronormativité et compagnie, mais que c'est utilisé comme équivalent d'absurdité soutenue par le gouvernement. Suite à tous les à la consultation voilà, de l'interface qui nous permet de faire remonter les liens entre les tweets, leur contexte conversationnel, les images qui sont publiées conjointement, etc. Il est possible de présenter un certain nombre de résultats qui attestent de la manière dont le genre est disqualifié dans le corpus, à la fois dans le texte et dans l'image. Alors, dans un premier temps, on peut considérer que le genre est disqualifié parce que on va dire antiféministes, conservateurs, etc., estiment que le genre vient contester une différence des sexes strictement binaire et lisible. Alors, par exemple, si on reprend les images les plus citées, la deuxième image, en fait, est un questionnaire à choix multiples où, en fait, c'est probablement une université canadienne qui demande aux étudiants qui s'inscrivent de choisir leur identité de genre. En fait, il y a 20 réponses. Donc, c'est présenté par les antiféministes comme étant une manière déraisonnable d'interroger la binarité simple, claire, biologique, lisible, compréhensible du genre. C'est parfait. Le deuxième résultat, c'est que la disqualification du genre, elle passe par la dévalorisation des personnalités qui ont porté un certain nombre d'actions. Et notamment, on va souligner qu'il y a une forme de contradiction entre ce qu'ils ont pu dire à un moment et ce qu'ils disent à un autre moment. Donc là, vous avez un montage fait par Sens Commun. Entre des propos de Najat Vallaud-Belkacem en 2011, elle explique que la théorie du genre, blablabla, blablabla. Donc on est à l'époque où cette expression-là peut à des interprétations très multiples, donc elle peut être utilisée par des féministes, des antiféministes, des hommes de gauche, de droite, etc. Et en 2013, au moment où l'expression théorie du genre est devenue équivalente de idéologie du genre, eh bien elle dit l'idéologie du genre n'existe pas. Donc évidemment, on a l'impression qu'elle se contredit, alors qu'en fait, avec notre étude, on se rend compte que l'acception de l'expression, en fait, c'est rigidifié, ce qui explique qu'elle ait pu dire une chose et, semble-t-il, son contraire quelques années plus tard. Et puis, troisièmement, le genre est disqualifié au motif que les actions politiques qui seraient inspirées par lui viendraient faire la promotion d'intérêts particuliers. Alors là encore, les images sont précieuses pour comprendre ce type d'arguments insidieux. Par exemple, Judith Butler, je crois que c'est la 13e photo la plus citée du corpus, est régulièrement présentée comme la papesse des études de genre, régulièrement présentée comme américaine, donc c'est un concept qui n'est pas français, qui est un peu hors sol. Elle est présentée évidemment comme lesbienne, donc elle prêche pour sa paroisse. Elle est présentée comme philosophe juive anti-sioniste, donc la manière dont elle est présentée par les opposants à la théorie du genre, ceux qui parlent de théorie du genre, les opposants aux études de genre, est assez intéressante de mon point de vue parce qu'il y a une mise en avant d'un certain nombre d'éléments identitaires considérés comme disqualifiés et donc voilà, qu'elle prêcherait pour sa paroisse. Je vous passe tous les autres exemples des ministres canadiennes lesbiennes qui elles aussi ont dans leur pays fait la promotion des études de genre. Je laisse Thomas conclure.
Donc deux, trois éléments sur les directions dans lesquelles on aimerait aller à partir de maintenant. La première, c'est que pour l'instant, l'environnement d'analyse, il est purement passif, il fait uniquement de la restitution. Donc il s'agirait d'une part d'affiner les visualisations qui sont proposées. Par exemple, travailler sur des associations récurrentes de hashtags. On a vu que parfois les hashtags étaient combinés. Là, pour l'instant, on est au niveau du hashtag isolé, mais on aimerait pouvoir se prononcer à propos des combinaisons phares. Et on aimerait aussi rendre cet environnement plus actif avec la possibilité pour le chercheur ou la chercheuse de pouvoir faire des annotations, de définir des tags personnels pour pouvoir qualifier, en fait, documenter et qualifier son travail analytique à mesure qu'il se fait durant la découverte du corpus. Enfin, on parlait initialement de la distinction entre l'API dite REST et l'API Stream. On pourrait souhaiter compléter certaines informations avec l'API REST, notamment pour consulter les publications d'un utilisateur particulier. Ça peut advenir dans l'analyse qu'on cherche à s'intéresser à quelqu'un pour lever une ambiguïté sur un contenu qu'il aurait posté. Donc ça, c'est un horizon d'extension qu'on envisage. Et puis enfin, j'avais évoqué la question aussi d'analyser les images un petit peu plus finement. Là, pour l'instant, ça reste du travail de découverte à la main. On souhaiterait implémenter des algorithmes qui pourraient faire une espèce de préqualification du corpus d'images. Par exemple, mettre dans le même sac ce qui est un dessin, ce qui est un portrait, ce qui est un photomontage. Ça serait des outils qui permettraient d'aller encore plus rapidement à la découverte du corpus. Voilà, on va s'arrêter là.
Merci.
Thank you.
cette présentation très riche, avec des aspects différents, dont des aspects techniques assez pointus. Alors, une première question qui n'est pas désintéressée, c'est donc cette méthodologie et ce dispositif. Hein, donc la méthodologie, elle a bien été expliquée dans le détail, mais les aspects de dispositif, est-ce que vous le pensez en l'état, pour l'instant, transposable, et est-ce que vous pensez en faire don à la science ou...
Je réponds là-dessus.
Oui.
Oui et oui, transposable, parce qu'en fait le
polémique.
Ouais, absolument. Oh, j'ai bien compris la question. Oui, parce que dans les aspects techniques, il n'y a rien de spécifique à la question de la théorie du jeu. En fait, là, on a défini un ensemble de repères techniques et de briques techniques logicielles qui sont tout à fait génériques, qui ne sont pas marquées par les questions de recherche. On pense même qu'au-delà de la sémiotique, le fait d'avoir les images, de déplier les URL et d'avoir les conversations, ça peut servir quoi qu'il arrive. Hein. C'est pas une singularité sémiotique. Et la deuxième question, c'était le don à la science. Oui, en fait, une fois que le code sera un petit peu plus propre, il sera publié sur GitHub, bien sûr.
Je répondrais peut-être un tout petit peu différemment. Je pense qu'en fait, la méthode, elle est généralisable même au-delà de la question des controverses ou des polémiques sur une thématique spécifique, par exemple, parce que, à part... les conversations, mais qui peuvent être utiles même en dehors de la question des controverses. Mais la question des controverses m'a amené à réfléchir où était le conflit dans Twitter et donc à considérer les conversations. Mais on pourrait tout à fait imaginer qu'en dehors des polémiques ou des controverses, l'outil serve à des gens qui travaillent sur une thématique spécifique. Après, on a dit que c'était que ça pouvait toucher à des thématiques autres que théorie du genre. Oui, bien sûr. Après, je trouve que sur ces questions qui sont un peu sensibles. Et je pense notamment à des collègues qui travaillent sur les phénomènes un peu de Internet poubelle avec des propos extrêmement racistes, xénophobes, homophobes, etc. À travers cette méthode-là, il y a la possibilité aussi de toucher les images qui, à mon avis, dans ce genre de thématiques, sont particulièrement importantes à analyser. Parce qu'actuellement, la plupart des moteurs de recherche qui identifient des propos racistes, homophobes, etc., se basent sur la lexicométrie. Et je pense qu'il y a un intérêt à considérer les images parce que, par exemple, l'appel au crime, l'appel à la violence, l'appel au meurtre, etc., ne passe pas toujours par le texte. J'ai en tête des photos de Najat Vallaud-Belkacem et Myriam El-Khomri, dont il est dit de manière assez raciste que ce sont des Fatma qui ont du mal à gérer leur féminité, etc., etc. Bon, ça c'est un propos assez odieux, mais qui en plus sont accompagnés de photos de balles. Et donc on comprend à travers la circulation des images qu'il y a quand même, on suggère quand même que ces personnes devraient être supprimées. Et ça passe pas par le texte. Donc c'est à travers les images qu'on va pouvoir identifier aussi les ressorts du discours sexiste, homophobe et raciste.
Donc ça je m'autorise encore deux questions. Hein, ça répond partiellement à ma question. Peut-on faire une analyse de la valeur rhétorique de Libérien? Et dans une deuxième partie, ma question c'était de l'image. Donc là pour l'image, ça a été répondu. Pour Libérien. Il y a eu, à un moment donné, de la présentation, le fait de dire qu'on a peu de caractère quand on est sur Twitter, et le fait de mettre une URL, même si elle est raccourcie, ça supprime encore de l'espace de discours. Et quand on veut faire passer un message, aussi bref soit-il, on a besoin d'une construction de discours, donc de la rhétorique. Et donc, je revenais sur quelque chose que Alexandra Samor avait présenté il y a quelques années, là, la rhétorique de Libérien. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que cette transposition se ferait aussi sur Twitter, qu'on pourrait caractériser les hyperliens qui sont disposés à l'intérieur de tweets grâce au contexte
dans le cadre d'une procédure automatique ou comme résultant d'une analyse manuelle
possible. Dans une analyse manuelle, c'est assez facile en ayant le contexte.
Mais de...
bah, tout dépend s'il faut aussi, si la question porte sur le fait de forger des nouvelles catégories pour définir les rapports et des valeurs hypertextuelles qui seraient propres à Twitter.
C'est intéressant, j'avais pensé.
Parce qu'auquel cas, ça peut être que manuel. C'est-à-dire qu'il y a quand même. Il y a peut-être une typologie de l'hyperlien à faire dans Twitter. Il y a des liens internes qui ont une valeur particulière, des liens de positionnement identitaire, le hashtag avec ses 3-4 fonctions, le retweet, le j'aime, le statut des conversations qui sont des objets hypertextes, hein, puisqu'en fait, un tweet qui en répond à un autre, c'est un lien hypertexte, d'une certaine manière. Il y aurait ce travail à faire, je dirais, avant de faire ce que tu évoques, hein, ça serait de faire une typologie des rapports entre fragments de contenu dans Twitter. Et alors après, je sèche un peu. En tout cas, peut-être qu'une analyse automatique des images pourrait nous mettre sur la piste.
C'est là, les features de rhétorique dans les images sont beaucoup plus facilement identifiables, texte-image, entre le lien hyper, enfin, le rebond du lien hypertexte vers autre chose, c'est déjà compliqué. On vérifie point par point, ensuite faire remplir une grille, et là, si on multiplie les possibilités rhétoriques, ça nous
fait le protocole.
Oui, absolument. Il faut savoir après si méthodologiquement ça a une quelconque signification. Techniquement, c'est peut-être, mais est-ce que ça sert ? Je dirais que oui, au regard d'une question de recherche précise donnée.
Parce qu'à une certaine époque, on avait juste l'hyperlien qui apparaissait, puis après, on a eu les Twitter cards avec peut-être un pré-aperçu de ce qu'était l'image, et on peut, pas de ce que de ce qu'était l'image, un petit résumé éventuellement d'une image, et on comprend qu'il y a une manipulation éventuellement pour des pros. D'aller dire ceci en fait c'est un argument convaincant alors que c'est une ironie si on fait un lien sur F de souche ou d'autres sites qui ne sont pas forcément ouverts à tous les sujets qui ont été traités, on peut comprendre qu'il s'agit d'ironie directement juste avec l'hyperlien en fait.
Dans certains cas.
Alors, ce qu'on a fait, mais à la main, ça on ne l'a pas fait de manière systématique, c'est qu'on a considéré un compte qui était particulièrement actif, qui était la Manif pour tous 49, je crois, donc section départementale 49 de la Manif pour tous, qui avait une politique des URL très particulière, parce qu'en fait, systématiquement, ils citaient leur site. Donc c'était Manif pour tous 49, renvoie à Manif pour tous 49, et qui plus est, en fait, ne renvoyait pas à Manif pour tous 49, mais à la page revue de presse de Manif pour tous 49. Donc en fait, il imbriquait des contenus venant du Figaro, Valeurs Actuelles, enfin,
sous trois couches d'indirection hypertextuelle.
Et donc du coup, il y avait une survalorisation de leur site, alors qu'en fait, c'était juste... Alors que c'était complètement de l'autopromotion.
L'autocitation.
Voilà, exactement. Alors qu'une autre section départementale avait une pratique différente, avec vraiment le choix de manifester. Donc c'est un peu, à part une analyse fine à la main, je ne suis pas certaine qu'on arrive à réellement objectiver.
Moi, j'ai bien aimé, en fait, vous avez découvert cette intégration de la conversation théorie du genre dans une conversation globale, mais comment si c'est pas finalement toutes les conversations en fait qui sont liées les unes aux autres finalement. Alors après, est-ce qu'on peut en déduire les circuits, enfin les sens, quoi, c'est-à-dire d'où ça vient, est-ce que ça nous va. En tant que chercheuse, je m'intéresse plutôt aux sources, donc est-ce qu'on peut identifier les sources à partir de ce système d'intégration de conversation les unes les autres. Alors, ou est-ce que c'est un jeu de rebond finalement entre des acteurs toujours les mêmes d'ailleurs.
En fait, j'entends deux questions. Je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à l'une. Je vais essayer de répondre à l'autre, puis après, vous me direz si j'ai répondu. Et puis... on a fait un micro-corpus autour de l'école, de l'enseignement de la théorie du genre à l'école. Et il est évident qu'il y a quelque chose de l'ordre de la question de l'altérité à l'école, qui fait se nouer de manière très fine les discours homophobes, islamophobes et sexistes. Et on observe sur un corpus beaucoup plus restreint et très thématisé des espèces de généalogies argumentatives. Donc, je suis obligée d'aller très vite, hein, mais où on retrouve le vocabulaire du mouvement pour l'école libre, donc qui date des années 80, quand Mitterrand a voulu remettre en question les écoles privées. Et donc on retrouve tout un tas de vocabulaire qui perdure depuis plusieurs décennies et qui vient de l'enseignement catholique, en fait. La question de la vigilance, on retrouve beaucoup le terme vigilant, vigigender. En fait, finalement, on retrouve une généalogie à travers ces questions-là. On retrouve la thématique de l'école républicaine, l'école neutre, à partir du moment où les musulmans sont trop visibles, je mets plein de guillemets, est-ce que c'est encore une école républicaine ou est-ce que ça devient une école musulmane? Et là, on retrouve un certain nombre de vocabulaires qui datent de la guerre d'Algérie, avec des thèmes, avec des termes et des du vocabulaire typiquement coloniaux, hein, le terme Fatma qui est extrêmement connoté en témoigne. Et c'est-à-dire que quelque chose que j'avais perçu de manière diffuse dans un corpus de 100 000 tweets, et où je me dis, est-ce que c'est moi qui cherche à faire des rapprochements, etc., tout d'un coup, sur la question de l'école et des enjeux que ça soulève, on ne peut pas passer à côté du fait qu'il y a des accointances. Alors j'appelle ça coalition instable, c'est-à-dire des groupes qui a priori n'auraient peut-être pas grand-chose à voir les uns avec les autres, et qui sur une thématique particulière font un peu front commun.
Mais qui est peut-être aussi un effet du dispositif Twitter et de son système global d'indexation des tweets.
Et en fait, moi, mon hypothèse, ce serait qu'il y aurait des pratiques d'écriture qui permettraient de distinguer des communautés sémiotiques, des gens qui utiliseraient un peu les outils d'écriture numérique un peu de la même manière, et que ces communautés sémiotiques renverraient vers des communautés émotionnelles. Mais alors là, vraiment, ça nous amènerait un petit peu.
Alors, j'ai sélectionné trois questions. J'ai rapide. Un, c'est si vous gérez et comment vous gérez les contenus supprimés. Si vous allez vérifier systématiquement si vous pouvez me supprimer ou seulement dans certains cas, ou jamais. Et deuxième, vous n'avez pas parlé beaucoup de la dimension temporelle. Alors, je me demandais votre la plateforme, l'interface, comment permet d'étudier cet aspect temporel. Et la troisième, j'ai réfléchi sur la plateforme en général, qui je trouve vraiment la solution pour les chercheurs qui veulent avoir un regard approfondi, je dirais, sur ce aspect. On pourrait dire qu'aujourd'hui, comme elle est aujourd'hui, c'est une interface plutôt que pour analyser un corpus, pour construire des sous-corpus. On pourrait dire ça.
Oui, je suis d'accord.
Alors, pour la première question, la gestion des contenus supprimés. Alors, le processus de captation, qui est en temps réel, donc, ne se fait pas au même moment que le processus d'enrichissement du corpus, c'est-à-dire processus qui consiste à déplier les URL, télécharger les images et repérer les racines de conversation. Donc, au moment où le tweet est produit, en temps réel, capté par l'API Stream, évidemment, il n'a pas pu être supprimé, donc c'est frais. Pour des raisons techniques, on doit décorréler les deux, c'est-à-dire qu'au moment où on lance le processus de complémentation du corpus, peut-être que le tweet a été supprimé depuis. On en a la trace dans la base de captation, par contre on a perdu ces images et tous ces enrichissements hypermédias. Alors, pour l'instant on gère mal, par mal géré j'entends le fait de faire la captation et le complément à des moments différents, pour des raisons de ressources techniques en fait, voilà. L'architecture pourrait être améliorée.
Moi, je pensais, si par exemple, considérant les sujets, que parfois ça peut être délicat, il peut y avoir un lexique d'un certain type, je ne sais pas si après 6 mois, vous allez vérifier les taux des suppressions des contenus.
Alors, c'était la deuxième. Déjà, là, c'était un élément technique sur les conditions de réception.
On va voir leurs auteurs.
Et justement, alors, ça, c'est aussi quelque chose que je voulais évoquer au niveau de la censure. Donc, deuxièmement, pour cet aspect-là, nous, dans notre base de données, on sait repérer quand un contenu a été supprimé, puisqu'en fait, quand on lui pose une question, il ne répond plus, donc je le marque comme étant supprimé. Donc on est capable de faire une, de tracer ce qui a été supprimé et quand, puisque comme on obtient tout au niveau de la captation en temps réel, et que plus tard on essaye de compléter, on peut savoir quand ça a été supprimé, mais peut-être qu'au moment où on fait l'analyse complémentaire, le truc n'est pas encore supprimé, peut-être qu'il le sera dans 6 mois. Mais c'est pas grave, on relance le processus, et puis là, enfin, on peut dire qu'il a été supprimé. Par contre, ce qu'on ne sait pas dire, c'est quand il a été supprimé, puisque ça impliquerait de lui poser des questions perpétuellement jusqu'à ce qu'il disparaisse, et boum, là, alors, il aurait été supprimé. À part que c'est pas aussi simple, parce qu'un système informatique peut tomber. En fait, on n'a jamais la certitude d'une date. On peut faire que des fourchettes, des approximations. Et enfin, sur les causes de la suppression, je sèche totalement. Je ne sais pas répondre à ça. Pardon ? Je ne crois pas que Twitter communique sur les raisons. Twitter s'autorise à supprimer des contenus, mais pas en...
Il faut signaler le contenu.
Oui, mais c'est pas public. Le motif ne devient pas public. C'est-à-dire que Twitter, une fois après avoir reçu un mail de plainte, prend la décision ou pas de tuer le contenu en question. Mais nous, on saura jamais.
En revanche, on a assisté à des conversations où les gens disaient « On va vous dénoncer, on va dénoncer ce tweet comme étant notamment sur Judith Butler. » Parce que elle était marquée comme juive lesbienne, donc là délit machin, on va vous dénoncer.
Mais le truc qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait on est un peu dans le territoire de l'ennemi. Twitter, c'est pas une base de données à laquelle on aurait accès comme si c'était un système d'information qu'on a construit nous-mêmes. Donc on sera toujours limité par le facteur temporel, puisqu'on n'est pas connecté en temps réel à tout ce qui s'y passe, on peut récupérer que certaines choses. Donc après, c'est une question d'efforts informatiques qui sont mis en œuvre pour essayer de faire coller au mieux la réalité de ce qu'on a capté et la réalité de ce qui est disponible encore. Et pour l'instant, on n'a pas les moyens techniques de faire quelque chose de plus fort que ce qu'on a présenté sur ces aspects.
Donc c'est un peu plutôt visible, identifier les acteurs politiques. Dans le cas où on travaille par exemple une communauté, donc là on est obligé, quand on travaille par faire de compte, une ressource est identifiable. Et là du coup on est restreint par dire voilà la communauté politique elle pense ça. Alors que par exemple je trouve très intéressant votre choix, mais c'est difficile, à partir de thèmes et du coup retrouver des hashtags, c'est un plutôt plus d'autant plus qu'on est dans le web où la question des sources est un peu très très difficile. Hein.
Oui.
Juste un petit peu, voilà, parce qu'au début je me suis dit, ah, ça va faire des thématiques quand même, parce que les hashtags sont des thématiques, et du coup c'est un jeu plus difficile, mais pour moi il est plus pertinent que la question des choses qui va se prendre avec les communautés, parce que c'est impossible d'avoir tous les citoyens.
Après, tout dépend ce qu'on entend par source. Moi, j'ai compris source de lien, les énonciateurs plus que les acteurs.
Alors, votre remarque m'inspire deux choses. Premièrement, j'ai peut-être pas été très très clair sur la question de la constitution de la liste de mots-clés qui permettent d'amorcer le processus de captation en temps réel. Ce ne sont pas nécessairement des hashtags. Ça peut, mais ça peut être n'importe quel mot présent dans le corps du texte. Donc en fait, c'est plus fort qu'une captation sur la base des hashtags, c'est une captation sur l'emploi d'un terme.
Et enfin, sur la question des sources, il y a une question qu'on se pose, mais on ne sait pas forcément bien y répondre aujourd'hui. On pense que corpus a une définition quand même très formelle, et à un moment, il faut qu'on soit capable de qualifier ce que c'est que notre corpus. Donc là, on a fait quelques qualifications un petit peu informelles, mais il faudrait qu'on travaille sur la manière de le qualifier précisément. Et là, je vois, pour pouvoir dire ce sur quoi on a travaillé et ce qu'on a concrètement observé. Et alors là, je pense qu'il y a plusieurs éléments à dire. Donc le premier, l'élément temporel, dire quelle période de temps, c'est très important pour savoir quel fragment du réel a été pris. Deuxièmement, les mots-clés de la API stream. Ça, je pense que c'est fondamental aussi, puisque c'est quelque part ce qui se rapproche le plus d'une source, quoi. Et en fait, avec ces éléments-là, alors il y en a peut-être d'autres, mais il faut qu'on y réfléchisse. Il y a un implicite, c'est le processus de captation, c'est qu'on est dépendant dans la définition de notre corpus des contraintes définies industriellement par le groupe Twitter. Ce qui fait que ce que j'ai défini là comme critères lexicaux et temporels seront peut-être tout simplement plus valables dans un an quand Twitter aura modifié sa politique d'API stream s'il le fait. Et il a tout à fait le droit de le faire puisqu'il fait ce qu'il veut avec ses API. Donc on a un problème dans le temps pour qualifier exactement ce sur quoi porte un corpus. Je pense qu'il faudrait aussi intégrer dans la définition du corpus ce qui est l'état de l'API et des discours officiels produits par Twitter au moment où la collecte a été effectuée. Et je pense qu'en conjuguant tous ces aspects, on pourrait définir vraiment ce que c'est que de quoi on parle.
Moi, c'est une question, Ingloma, qu'on entend, mais très rapide, parce que vous dites que vous utilisez l'API streaming et donc votre corpus est complet. Mais en même temps, l'API streaming a une restriction très très connue qui s'appelle rate limit de 1%. Donc, c'est-à-dire que les hashtags ou les mots-clés que vous utilisez, si ça dépasse 1% de flux global, indépendamment si ça contient les hashtags ou pas, vous ne pouvez pas avoir plus que 1%. Donc, c'est-à-dire que les hashtags que vous avez suivis ou les mots-clés, ils n'ont jamais eu cette erreur, ils n'ont jamais dépassé les limites.
Sur
théorie du jeu.
On pense qu'ils sont suffisamment spécifiques pour ne pas représenter 1% de l'activité lexicale sur Twitter mondial.
La seule fois où...
C'est peut-être pas le cas avec genre. Mais quel moyen a-t-on de le mesurer? Alors, c'est à peu près sûr pour Stop Adoption pour tous, etc.
On n'atteint jamais 1%, par exemple, par rapport à des collègues qui travaillent sur Je ne suis pas Charlie, je suis Charlie, etc. Là pour le coup.
Mais on n'a jamais eu d'erreur. Ouais.
On n'a
jamais capté d'erreur.
Je crois que la fois où on a eu le plus de tweets, ça devait être le lendemain de la déclaration du pape, le 2 octobre, qui dit que c'est mal l'enseignement du genre en France dans les manuels scolaires. Comme ça, le 2 octobre 2016. Et il y a peut-être 20 000 tweets publiés le lendemain, le 3 octobre.
Ce qui n'est pas grand-chose par rapport à l'activité du total de Twitter le 3
non,
octobre.
Non, mais par contre,
d'un coup,
notre base a explosé.
Oui, non, mais c'est vrai, oui, mais c'est vrai. Ouais. Mais merci d'avoir souligné cet aspect, ouais, qui est très important, en effet. Je pense qu'on est quand même sous la limite du fait de la grande singularité de nos mots-clés. Oui, c'est vrai. Mais c'est absolument nécessaire de le préciser, vous avez raison, pour pouvoir se permettre de dire complétude.
Merci pour la présentation.
Merci.